Alors, je ne suis pas inspectrice générale en art plastique. Je vais vous expliquer. C'est important de le préciser parce que je suis inspectrice générale dans le groupe enseignement primaire et dans le groupe enseignement et éducation artistique, qui est un autre groupe. Et dans le groupe enseignement et éducation artistique, je porte le premier degré. Je représente le premier degré. Alors c'est important, pourquoi ? Parce que je ne porte aucune discipline, je ne représente aucune discipline, je ne défends aucune discipline non plus, hein, je n'ai pas cette culture. Par ailleurs, avant d'être inspectrice générale, j'étais professeure des universités et j'avais deux objets de recherche, enfin deux et demi ou trois, on va dire. La laïcité, l'éducation du citoyen en milieu scolaire, donc vous imaginez comme j'ai du boulot en ce moment. Et puis l'éducation artistique. C'est dans ce cadre que j'ai travaillé avec Alain Kerlan, que j'ai rencontré Samia, que j'ai travaillé à l'ISPEF dans une recherche extrêmement intéressante qui s'appelait les politiques de l'enfance, donc pilotée par Alain Kerlan. Les politiques de l'enfance, le cas de l'éducation artistique. Et j'ai aussi à côté de cet engagement aussi, j'ai travaillé 2 ans avant de quitter l'université de Lille. J'ai travaillé 2 ans dans une recherche que j'avais initiée dans une école en éducation prioritaire à Lille avec une collègue sociologue qui s'appelle Marie-Christine Le Floch, quelqu'un d'exceptionnel que Alain Kerlan connaît bien. Nous avions initié une recherche sur l'évaluation des effets de l'éducation artistique dans le cadre d'un projet MUSE. MUSE, donc, est une association qui s'occupe de promouvoir l'éducation artistique partout sur le territoire, en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Hein. Et donc, il s'agissait d'une recherche, enfin, d'une situation, d'un projet dans lequel il y avait 2 artistes par classe, ce qui est tout de même assez exceptionnel. Bien. Alors, c'est vrai que j'ai relevé ce défi d'articuler éducation artistique et culturelle et éducation aux valeurs de la République. Donc, j'ai commencé par ça, ça va vous refroidir, mais ensuite je vais vous ranimer, vous allez voir. C'est la feuille de route interministérielle, donc qui a suivi les attentats, parce qu'en effet nous sommes dans une période particulière, un contexte particulier, c'est février 2015. C'est donc la feuille de route convenue entre le ministère de la Culture et la Communication et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc j'ai sélectionné évidemment ce qui nous intéresse pour aujourd'hui. Les arts et la culture appartiennent au bien commun d'une nation. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture et la Communication ont la tâche primordiale de transmettre aux plus jeunes notre patrimoine artistique et culturel, de former des esprits humanistes capables de comprendre cet héritage et un jour de l'enrichir. Les 2 ministères ont la responsabilité de favoriser l'égal accès des jeunes à la culture dès le plus jeune âge, pour que celle-ci ne soit pas un vecteur de reproduction sociale mais d'inclusion, qu'elle participe à l'émancipation individuelle et à la construction du vivre ensemble. En créant, c'est la suite, en créant des références communes, en valorisant le partage d'expériences, en luttant contre les fractures sociales et territoriales, l'éducation artistique et culturelle participe des politiques de citoyenneté et de la transmission des valeurs de la République portées par le gouvernement. Voilà la feuille de route. Alors, pour aujourd'hui, pour vous, pour nous, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais prendre ça ? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer ? Comment finalement s'emparer intelligemment de cette question ? Sachant que, en réalité, j'ai saisi l'opportunité de mettre en lien les valeurs de l'éducation artistique et culturelle et les valeurs de la République, parce que finalement, cette réflexion sur les valeurs, même dans le champ de l'éducation artistique et culturelle, elle n'est pas tellement menée. Elle n'est plus non plus menée tellement à l'école, et c'est le propre d'une politique éducative, en réalité, c'est pas non plus de poser des questions. C'est de poser justement des principes, une feuille de route. Mais quand on réinjecte ou qu'on essaye de remobiliser autour de quelque chose qui s'appelle les valeurs de la République, comme vous le savez, on ne mène pas de réflexion, on n'incite pas les personnels non plus à réfléchir ou à questionner de manière critique ces valeurs et comment, et à s'interroger non plus sur la manière de mettre en œuvre les choses au mieux et de la manière la plus intelligente possible en tenant compte de la réalité de l'école et des enseignants. Bien. Donc, mon but aujourd'hui, et c'est ma manière de travailler, c'est ma manière habituelle de travailler et de m'exprimer publiquement. Mon but n'est évidemment pas de vous proposer une doctrine. Je pense que voilà ma manière de travailler. Avec les personnels de l'éducation nationale en particulier, mais aussi avec les partenaires de l'éducation nationale, je pense que notre but commun ne doit pas être de nous constituer une doctrine, mais plutôt de nous constituer une communauté de questions. Et c'est le sens de ma proposition pour aujourd'hui. Alors, bien évidemment, mentionner les précautions préalables. Quand il s'agit d'essayer d'articuler éducation artistique et culturelle et valeurs de la République et de la démocratie. Un double écueil, je pense que vous connaissez bien tout de même. Le premier, instrumentaliser l'éducation artistique et culturelle, la mettre au service de valeurs qui lui sont extérieures. J'oublie un E. Et là, j'attire l'attention sur quand même un consensus et un constat partagé. Finalement, dans l'atelier dans lequel j'étais hier après-midi sur la crise, la gestion de crise, c'est finalement quand même ce qui est apparu. C'est ce consensus actuel autour du bénéfice socio-moral de l'éducation artistique et culturelle. Tout le monde s'accorde là-dessus, je pense à raison. Samia aussi l'a dit à sa manière. Donc, un bénéfice socio-moral qui s'explicite en termes de confiance en soi, estime de soi, dépassement de soi, participation, coopération, autonomie, toutes valeurs qui sont les valeurs personnelles et dont la croissance et le gain pour l'élève serait garantie par l'éducation artistique et culturelle, sachant que je pense que à l'école aujourd'hui, il n'y a que, quand je dis école, c'est premier et second degré confondus, il n'y a que les enseignements et l'éducation artistique qui portent ces valeurs. Je pense qu'il n'y a pas d'autres enseignements qui portent explicitement, qui aient explicitement conscience d'un bénéfice socio-moral pour l'élève. Mais il y a quand même l'écueil de l'instrumentalisation. Même, je crois, lorsque Samia a dit « la finalité, c'est réduire l'échec scolaire », c'est une instrumentalisation tout de même. Alors, on peut instrumentaliser, évidemment, pour les meilleures intentions du monde. C'est en général ce qu'on fait. Mais du coup, ça interroge sur la valeur de l'art, quand même. Et la question a été posée, finalement, dans l'atelier hier après-midi, la valeur de l'art, le bénéfice pour les élèves de l'art en tant que tel. Donc du coup, le deuxième écueil, il est quand même associé au premier. Il consiste à associer les bénéfices de l'éducation artistique et culturelle électivement aux élèves de l'éducation prioritaire. Et là, enfin, ce discours-là, on le connaît aussi. Il inspire l'éducation artistique, il inspire les politiques d'éducation artistique et culturelle, évidemment, d'une manière qui n'est absolument pas nouvelle. Là, je fais allusion aux objectifs de démocratisation, d'égalité, de politique de compensation, voire de réparation. Il y a un discours aussi, je pense que vous le savez, qui est un discours de réparation des fractures sociales par l'école, qui est très présent dans l'école, parfois même d'une manière non explicite. Et là, je pense que ce serait dommage, évidemment, de cantonner l'éducation artistique et culturelle à quelque chose que je considère comme un bénéfice secondaire, hein, et qui conduit finalement inconsciemment à consolider le préjugé selon lequel l'éducation artistique, dans son versant culture ou dans son versant enseignement, eh bien, ne serait pas une éducation fondamentale, aussi fondamentale que lire, écrire, compter. Donc les valeurs en question, hein, qui sont suggérées, qui sont supposées, qui sont implicites, hein, ces valeurs sont celles de l'école en tant qu'espace politique. Et j'attire votre attention sur le fait que l'école en France, et peut-être tout particulièrement en France, est un espace politique, un espace avant tout politique. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Bon, je pense bien sûr électivement à l'école primaire. L'école en France est restée l'école du citoyen. Même si, quand bien même, on pourrait constater un certain retrait, un certain recul la finalité d'éducation du citoyen à l'école et par l'école, en réalité, l'école en France est restée l'école du citoyen, la question étant quel citoyen ? Et c'est autour de cette question que je vais travailler dans cette présentation. Un détour quand même, j'ai pas pu m'en empêcher, évidemment, par la Troisième République. Pourquoi ? Bon, d'abord, on est dans l'ancienne école normale de Fontenay, donc il fallait bien que je cite ce cher Félix Pécaud, dont la statue est probablement trône dans le couloir. Donc, un bref rappel sur l'introduction des enseignements obligatoires, des enseignements artistiques obligatoires à l'école primaire, à la fin du XIXe siècle. Le dessin et la musique et le chant choral. Alors, évidemment, à la fin du XIXe siècle, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière, quelle vertu éducative on assigne à ces enseignements à un moment où l'école primaire, laïque et républicaine, se réinstitue sur la base de principes justement laïques et républicains. Alors la situation du dessin est intéressante parce que finalement, dès 1882, c'est-à-dire dès les nouveaux programmes promus par les républicains qui sont à l'origine de cette modernisation et de cette laïcisation de l'école primaire, eh bien, il y a une tension entre une visée utilitariste du dessin, hein, sur fond d'industrialisation de la société. Ce n'est pas le cas seulement en France, hein, s'agissant du dessin. C'est le cas au Québec, par exemple, aussi, où on assiste à cette même finalité attribuée au dessin à la même période et pour les mêmes raisons. Donc une finalité utilitariste liée justement à l'industrialisation de la société, mais au même moment une tension avec une finalité spiritualiste qui est portée par un philosophe, un professeur de philosophie qui s'appelle Félix Ravesson, et qui défend pour le dessin une finalité davantage de formation de la personne et de la personne globale, une finalité davantage éducative. Et finalement en 1909, avec Maurice Pélisson, eh ben, c'est la deuxième finalité du dessin qui l'emporte pour l'école, puisque Maurice Pélisson défend le principe d'une valeur proprement éducative du dessin, envisagée comme, dit-il, un instrument général de culture. S'agissant de la musique et du chant choral, alors on ne note pas de tension, mais on note en revanche, notamment sous la plume de Félix Pécaud, l'inscription du chant choral dans le processus de laïcisation en cours. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'en même temps, il le dit comme ça, l'enseignement populaire de la musique est un instrument subtil et puissant de culture morale. Donc là, on se dit, aïe, 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 voilà qu'il instrumentalise la musique pour l'éducation morale des élèves, c'est vrai. Mais dans le même temps, ce qu'il explique, c'est que pendant des siècles, l'Église, lui, il est protestant, hein, Félix Pécaud, donc... Il ne ménage pas sa peine pour critiquer l'Église catholique et ses dogmes. Et dans le même temps, il explique que pendant des siècles, l'Église catholique a confisqué le chant choral à des fins édifiantes, et que dans ce cadre, elle s'est appropriée finalement toute la dimension de ce qu'on peut considérer comme un enseignement populaire de la musique, et que faire de la musique à l'école, et du, en particulier du chant choral à l'école, un enseignement qui permet la culture morale de tous les élèves, c'est arracher cette prérogative à l'Église et rendre à l'enfant du peuple, rendre à l'enfance populaire ce qui lui est dû dans un cadre laïque. Donc en même temps qu'il fait de le chant choral un puissant instrument de culture morale, il le limite donc, c'est pas l'art pour l'art, hein. Mais dans le même temps quand même il défend l'idée que ce chant choral est au, à l'école est au service de la laïcisation de l'école. Donc voilà, ce détour. Alors on n'en est plus là, on ne peut plus en être là, bien évidemment, encore que la vertu éducative, comme je le disais de manière liminaire, de l'éducation artistique, et notamment dans une perspective de moralisation et de socialisation, peut quand même être une tentation inconsciente dont peut-être nous devons avoir conscience pour nous en préserver. Alors, les valeurs de l'art et de la culture. Voilà comment je me propose de vous de conduire cette réflexion. Donc, je pose la question de l'individu et du commun, dans toute sa latitude, entre liberté individuelle et pouvoir de fabriquer du commun, le pouvoir ambigu de l'art. Et là, je cite Pierre Laurent, qui est un artiste, je ne sais pas s'il est toujours dans Enfance, Art et Langage, un artiste plasticien. Alors j'ai mis Pierre Laurent artiste parce que dans le petit livre qu'il a écrit, c'est comme ça qu'il signe. Mais en réalité, je crois que je n'ai jamais entendu Pierre Laurent se présenter comme un artiste. Et c'est peut-être un peu aussi une difficulté à l'école quand il y a des artistes intervenants, cette manière de se présenter comme artiste, quelque chose qui me semble à interroger. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il dit. Choisir la pratique artistique comme levier pour l'égalité des chances, on est dans une perspective de démocratique, là qui sonne à nos oreilles comme quelque chose de connu, comme une façon détournée de devenir élève en participant au dessin d'une ligne d'horizon commune. Là aussi, on est dans quelque chose de connu, hein, une façon détournée de devenir élève. Et puis, deux lignes plus bas, il dit l'art d'essence anarchiste, individualiste, mis au service du collectif. Donc je trouve que c'est bien résumé finalement cette position ambiguë de l'art, hein, entre liberté individuelle et pouvoir du fabriquer du commun. Alors une position ambiguë, mais qu'il ne s'agit pas de réduire. C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas réduire cette position ambiguë de l'art ou cette situation ambiguë de l'art. Parfois je dis que l'art est un objet turbulent. J'aime bien la notion de turbulence. À l'école, c'est comme j'emploie turbulence comme quand on est dans un avion. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui fait trembler, qui fait bouger. Je ne sais plus quel mot vous avez utilisé tout à l'heure quand on discutait en fumant une cigarette. Quel verbe ? Des ébranlements, c'est ça, exactement. Hein. Qui fait bouger, qui fait trembler, qui déstabilise. Voilà, turbulent, un objet turbulent. Mais il faut qu'il reste turbulent, sinon on ne voit pas trop à quoi ça sert. Alors, j'insiste sur ce paradoxe de l'art pour rappeler peut-être des évidences, mais quand même. Une puissance de subversion, j'en suis parfaitement convaincue. En tant qu'amateur d'art, tout simplement, je ne suis pas artiste, je n'ai aucune pratique artistique, mais j'aime l'art, comme vous tous sans doute. Enfin, l'art, c'est mon biotope. Hein. Quand je vais mal, je vais dans un musée et je regarde des œuvres d'art. Et ça me répare. Hein. Une puissance de subversion, en ce qu'ils mettent en cause les pouvoirs et l'ordre établi. Quand même une dimension de l'art qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi ? Alors, j'ai décrit parce que l'art, par définition, procède d'une lecture et d'une expression du monde qui est constamment renouvelée, constamment nouvelle. L'art, c'est le nouveau. Il n'y a pas deux fois la même chose en art. Et puis à l'école, comme l'a dit une collègue genevoise qui était dans l'atelier hier après-midi, vous me direz si je vous trahis, mais j'étais très sensible à ce que vous avez dit. Vous avez dit que à l'école, en réalité, il n'y a pas de prédéfinition possible du but visé. Alors, bien sûr, il y en a un sous la forme de la coélaboration d'un projet, par exemple. Mais en même temps, sur le fond, qui est l'art lui-même, la finalité artistique, il n'y a pas de prédéfinition possible du but visé. En fait, le but est inconnu. C'est l'inconnu, l'inconnu. L'inconnu est la nouveauté. Et là est le pouvoir de subversion de l'art, me semble-t-il. En même temps, une capacité à se mettre au service de l'ordre établi et du pouvoir, et ça c'est un constat tout à fait indéniable, ce qu'on appelle l'art officiel, donc un puissant langage pour fabriquer des valeurs communes, pour susciter des enthousiasmes communs, travail, amour de la patrie, sacrifice. Enfin, je ne vous ferai pas un dessin sur tous ces pays totalitaires qui, dans l'histoire et de par le monde, enfin, leur première préoccupation, c'est bien évidemment de s'emparer de l'art et de la faculté de l'art à fabriquer du commun dans une société. C'est bien à contrario, parce que l'art a cette puissance de subversion, eh bien, qui mettrait en cause, ne cesserait de remettre en cause, bien évidemment, l'ordre établi ou l'idéologie officielle. Donc, son instrumentalisation à des fins de culture commune conduit à annihiler l'individu. La formule est un peu abrupte, mais c'est pour essayer d'introduire un peu un écart entre éducation artistique et culturelle. On a toujours les deux adjectifs, mais en réalité, la culture, par définition, fabrique du commun. L'art, en revanche, il peut servir à un autre dessin. Bon. Mais son instrumentalisation conduit à des fins de culture commune, conduit à annihiler l'individu, malgré tout, dans l'histoire, on le sait. Enseigner la liberté, donc. Cela nous pose devant une contradiction intrinsèque et réputée insoluble. Concevoir une école assurant en même temps la liberté individuelle et l'union sociale, la réalisation de soi et le civisme. Alors, c'est vrai que dans la tradition de l'école en France, cette double finalité est réputée avoir été réalisée par l'éducation du citoyen en milieu scolaire, notamment à l'école primaire, et par donc cette conception propre de la citoyenneté qui est celle de l'école en France. Et là, je renvoie aux analyses de Marcel Gaucher dans un article déjà ancien, 1984, « L'école à l'école d'elle-même. Pouvoir et contradiction de l'individualisme contemporain. Son analyse de l'école française ». Alors c'est contestable sur plusieurs points, mais en tout cas la démonstration est quand même lumineuse. Pour lui, la grande réussite de l'école de la République, ça a été justement de rendre possible de conjuguer de manière la plus harmonieuse possible l'individu et le collectif au sein de l'éducation du citoyen. Bon. Alors, en même temps, la finalité de toute institution éducative semble bien d'amener les dispositions singulières des individus à servir la cause de la collectivité. C'est-à-dire que dans tout ça, il ne faut pas oublier la question de l'éducation. L'éducation. Dès qu'il y a éducation, il y a rapport entre des adultes et des enfants. Il y a donc des objectifs. On veut conduire l'enfant quelque part. En même temps, il n'est pas imaginable d'éduquer des enfants sans avoir l'ambition de les amener à partager quelque chose du collectif. de les amener à s'intégrer dans la société de la meilleure manière possible, qu'il s'agisse de l'éducation familiale privée ou qu'il s'agisse de l'éducation scolaire. C'est impossible d'éduquer un enfant sans savoir cet objectif. En même temps, là, je parle de l'institution éducative. Alors, institution éducative, je n'entends pas seulement l'école, là, en l'occurrence, parce que s'agissant du domaine qui nous réunit aujourd'hui, l'éducation artistique et culturelle, vous aurez remarqué que la plupart des institutions culturelles, et ça a été souligné par le collègue qui a montré le film hier, j'oublie son nom. Oui, Christian Lallier, hein, c'est ce qu'il a dit hier, hein, il a bien dit. La plupart des institutions culturelles ont une finalité éducative. Aujourd'hui, les musées, l'opéra, je ne parle même pas des centres artistiques divers et variés. Toutes ces institutions culturelles ont un objectif éducatif et ménagent des parcours éducatifs pour les élèves, hein. Donc la finalité éducative et l'objectif éducatif touchent pas seulement l'école, ils touchent toutes les institutions culturelles de nos jours. Alors pour répondre à ces questions, essayer de formuler des réponses ou en tout cas les cadrer dans un questionnement commun, je vous propose de passer par Joëlle Zask. Et c'est ce qu'elle développe dans un ouvrage admirable, extrêmement intéressant, dont je vous recommande la lecture, « Art et démocratie, peuple de l'art ». Alors déjà ancien, mais que j'ai relu pour aujourd'hui, pour cette présentation. Voilà ce qu'elle dit. En principe, dans une société démocratique, il existe une forte analogie entre former un artiste et former un citoyen. Dans les deux cas, il s'agit d'éduquer, non d'instruire, d'assurer le développement des facultés de l'élève, non de couler son esprit dans un moule socialement utile. Alors, j'ai oublié de préciser une chose sur Joëlle Zask et sur ce livre, quand même. En fait, c'est un livre qui relate et analyse une enquête qu'elle a menée. Elle est maître de conférence en philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Elle est traductrice de John Dewey, spécialiste de la philosophie de John Dewey. Et c'est quelqu'un donc dans le paysage de l'institution de la philosophie qui est quand même un peu à part. Et ce livre est le produit enfin d'une enquête qu'elle a menée dans les écoles supérieures d'art en France dont elle a tiré une réflexion, une philosophie lui permettant d'articuler au mieux enseignement artistique et éducation démocratique. Parce que son objet et son projet dans ce livre, c'est cela. Et c'est ce qui m'a intéressée justement pour aujourd'hui. C'est qu'elle montre comment et pourquoi les enseignements artistiques, et elle dit bien les enseignements artistiques, hein, son objet, ce n'est pas l'éducation artistique et culturelle, ce sont bien les enseignements artistiques tels qu'ils sont enseignés dans les écoles supérieures d'art, mais aussi, elle généralise son propos et l'ouvre aux enseignements artistiques scolaires. Hein. Donc, elle montre comment ces enseignements artistiques sont exemplaires de ce qu'elle appelle une éducation démocratique. Donc, c'est pourquoi je trouve que sa réflexion est lumineuse. Donc, j'avance sur cette réflexion. Enseigner l'art est non seulement possible, c'est aussi la manière la plus valable d'enseigner. Alors moi, je suis désolée, mais quand je lis ça, je me dis, tout est dit. Je crois que c'est dans la vue d'après, j'explique comment elle peut dire ça. Donc voici comment elle explique l'exemplarité des enseignements artistiques. L'enseignement artistique à l'école est voué à combler une lacune d'individuation. On le destine à apporter une forme d'expérience jugée fondamentale à la fois pour le développement de chacun et pour la compréhension du social qu'aucune autre discipline n'assure. En privilégiant la participation des élèves à la conduite de leurs expériences plastiques et à la constitution de leur savoir, en favorisant le développement de leur personnalité par une orchestration de rencontres entre des œuvres et leurs sensibilités, il est la discipline par laquelle la démocratie a tenté d'entrer à l'école. Qu'elle y soit parvenue ou pas est une autre histoire. Alors quand elle écrit « Qu'elle y soit parvenue ou pas est une autre histoire », il y a une petite note dans son livre où elle dit « Les profs d'art plastique au collège ont 18 heures, 18 classes, et les conditions ne sont pas réunies pour que ce programme soit rempli. » Mais ce qu'elle dit, c'est que la théorie est intacte. Et vous voyez, ça alors, relire ça, d'un seul coup pour moi, ça a été la lumière. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle explique quand elle dit ça, quand elle écrit ça ? Elle explique que, totalement indépendamment de l'éducation artistique et culturelle et de ses dispositifs, des dispositifs qui requièrent des partenaires, hein, l'engagement de partenaires, elle explique que, par essence, par définition, les enseignements artistiques sont les enseignements par lesquels on cherche à introduire à l'école les principes d'une éducation démocratique. Et ça, qu'elle considère dans ses analyses, c'est son principe, que du point de vue des fondements de ses enseignements, ce sont les fondements de ses enseignements. Et ça, je pense que c'est juste. Pour discuter avec nombre de professeurs de collège en particulier, qui enseignent les arts, il faut quand même savoir, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent, hein, les professeurs en art, des professeurs de collège en art, tiennent le même discours que les artistes. Ils ont les mêmes ambitions. Hein, même discours sur l'éducation de l'élève, sur la prise en compte de la personne, les mêmes. Donc, je pense que c'est quelque chose à recueillir, du coup, ce cadre-là, ces fondements-là, sont bien les fondements qui sont communs aux enseignements à l'éducation artistique et culturelle. Maintenant, il y a un même combat, si vous voulez, là, hein. C'est ce que je veux dire. Maintenant, il y a le cadre de l'école qui empêche ces finalités de se réaliser, mais des deux côtés. Je poursuis. Donc l'artiste et le citoyen. Je disais de manière liminaire que l'école est restée l'école du citoyen, donc j'en viens à la question, quel citoyen ? À quelles conditions les réconcilier ? Comment concilier la cité civique et la cité inspirée, pour reprendre la terminologie de Boltanski, dans De la justification ? Alors dans son ouvrage, Joël Zask, finalement, accuse... C'est aussi ce qui est intéressant. Il s'excuse un petit peu peut-être de creuser un peu trop les lignes de partage, mais c'est pour les besoins de son analyse. Elle explicite deux citoyennetés, deux modèles de citoyenneté. Ce qu'elle appelle le citoyen à caractère national, forgé dans la philosophie de Rousseau, et le citoyen de l'univers, forgé plutôt dans la pensée de Voltaire, donc au même moment en France. Et dit-elle, l'artiste est citoyen de l'univers. Mais l'école républicaine s'est fondée sur l'ambition de former un citoyen à caractère national. Et là, elle le dit, effectivement sans embâge, l'école républicaine préfère un citoyen capable d'obéir aux injonctions de la raison à un citoyen capable de développer sa personnalité et son originalité. Alors, cette citoyenneté à caractère national, prenant appui sur la philosophie de Rousseau, c'est en effet une citoyenneté qui, finalement, par laquelle on obéit à la loi, la volonté d'obéir à la loi, est commandée par, finalement, par la raison, Et ce primat de la raison, à l'école en France, toujours d'actualité, eh bien finalement entre en résonance aussi avec ce que disait Samia précédemment. Elle, avec d'autres ancrages, une autre enquête. Mais il s'agit bien toujours d'obliger la volonté, ça notre conception de la citoyenneté, obliger la volonté, que la volonté s'oblige elle-même en prenant appui sur la raison. La raison elle-même nous faisant considérer l'intérêt général, autre notion clé de la citoyenneté républicaine traditionnelle en France. Dans ce cadre, ça c'est vraiment en quelques pages, il me semble que Joëlle Zask a presque tout dit, elle explique comment dans ce cadre, toute différence est perçue et considérée comme une inégalité. D'où, enfin, la bataille fait rage en ce moment, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, entre les républicanistes et puis ceux qui essayent ou celles qui essayent de faire prévaloir une conception plus ouverte de la laïcité, de la citoyenneté, de l'école et de ce qui s'y passe. Sachant qu'on n'est plus sous la Troisième République, que l'objectif de l'école n'est plus la constitution de l'État-nation, que l'amour de la patrie n'est plus l'objectif de l'éducation du citoyen depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis 1985, date des dernières instructions, c'était les instructions Chevènement pour l'école primaire, qui était encore centré sur l'amour de la République. Bon, ça fait 30 ans, donc j'ai tendance à penser que de ce point de vue-là, aucun retour en arrière n'est possible, ni souhaitable. Bon, donc, dans ce cadre, effectivement, toute différence, toute prise en compte de l'individu, de la personne, de ce qu'il est, de ce qu'il a à apporter et à dire, est vécu comme une rupture d'égalité et comme susceptible de compromettre le projet d'universalisme qui est celui de la République et de la citoyenneté républicaine. Alors du coup, j'en viens à la question de cette promesse d'émancipation, puisque originellement, bien évidemment et traditionnellement, dans la citoyenneté républicaine traditionnelle, bien évidemment, est enveloppée la promesse de l'émancipation de l'individu. Alors une promesse qui a rempli son rôle jusqu'à une certaine date, qui est plus à la peine aujourd'hui. Donc un individu conçu comme s'émancipant finalement par la citoyenneté, par l'accès à cette citoyenneté qui quand même, je pense, vécue et pensée dans la conception traditionnelle républicaine de la citoyenneté comme venant accomplir l'individu. C'est un accomplissement de l'individu parce que la citoyenneté est un accomplissement de l'individu parce que dans cette opération, l'individu subsume ses particularismes et ses différences sous une citoyenneté. Il les subsume, mais du coup, il les comprend mieux, il les dépasse. C'est ça que ça veut dire. C'est comme un dépassement de soi, la citoyenneté. La figure du citoyen étant effectivement, dans la tradition de l'école en France, considérée comme, par définition, la figure par laquelle l'individu se dépasse. Et à ma connaissance, il n'y en a jamais eu d'autre à l'école. Donc, à l'émancipation par la raison, correspond au modèle républicain traditionnel, les enseignements et l'éducation artistique répondent par un autre modèle, celui de l'émancipation par l'individuation. Ça, c'est ce que défend Joëlle Zask, qui est un modèle qu'elle qualifie de démocratique. Du coup, ça suppose de revoir ce que nous appelons démocratisation. Et elle dit ceci: démocratiser ne signifie pas mettre un même bien à disposition d'un nombre croissant de gens. C'est notre conception de la démocratisation. Cela signifie veiller à la distribution sociale des biens, de sorte que l'individualité de chacun soit respectée et encouragée. C'est fort, ça, quand même, non ? C'est un renversement de perspective, en réalité. Hein ? Veiller à la distribution sociale des biens de sorte que l'individualité de chacun soit respectée et encouragée, c'est le principe, dit-elle, d'une éducation individuante. Alors, évidemment, quand elle utilise l'adjectif individuante, c'est bien évidemment pour marquer la différence et l'opposition même avec ce qu'on appelle en France beaucoup et notamment sous l'impulsion de Marcel Gauchet, l'individualisme démocratique. La démocratie, ce n'est pas l'individualisme, la vraie démocratie. C'est ce que veut expliquer Joël Zask, parce qu'elle a d'autres enracinements. On considère que la démocratie, c'est l'individualisme avec éventuellement ses effets délétères, ses effets de séparation mortifère qu'ont fait Marcel Gauchet. Quand on se situe du point de vue républicain traditionnel, qui est un point de vue holiste et un point de vue moniste. Donc l'individuation, c'est autre chose. L'individuation, c'est bien la séparation. Quand il y a individuation, je deviens un individu en me séparant, mais en même temps, c'est la bonne individuation. C'est un processus par lequel je deviens un individu, mais tout en étant pleinement individu dans une société. Donc cette éducation individuante suppose de prendre en compte la personnalité de l'élève, trouver des supports et un rythme approprié pour introduire de nouveaux éléments, considérer l'élève comme coproducteur de son éducation. Voyez ces mots-là, on peut les trouver, ils circulent, hein, ils sont pas étrangers à notre philosophie de l'éducation et même à la philosophie de l'école, ils sont pas étrangers, mais en même temps, quand ils sont resitués dans le cadre de la conception démocratique que propose Joël Zask, eh bien, il résonne de manière cohérente, avec une conception de la démocratie qui ne serait pas prise en mauvaise part. C'est, dit-elle, la conviction au principe des enseignements artistiques. Elle reste sur le versant enseignement. Chacun compte pour un. Voilà le principe de cette éducation individuante, dont les caractéristiques sont apprendre à faire des choix, à les assumer, à les défendre, qui repose sur le principe d'un enseignement personnalisé, qui suppose de développer une expression plastique, une manière de voir et une manière de penser, suppose d'apporter quelque chose au dialogue artistique ou au monde, qui suppose un dialogue, une écoute. Alors, hier, c'est vrai que Christian Lallier a parlé de la notion de milieu. Il a parlé de l'éducation artistique dans l'exemple qu'il a, dans le chantier, enfin, sur lequel il a travaillé. Il a insisté sur la notion de milieu en évoquant Durkheim. Alors, là aussi, Joël Zask développe le principe d'enseignement artistique qui constitue un milieu. Alors évidemment, l'enracinement, là, ce n'est pas Durkheim, pour le coup. C'est plutôt Dewey. L'idée d'apprendre par l'expérience, et là, elle distingue expérimentation et expérience, en disant l'individuation résulte de l'enchaînement des expériences en une série ayant du sens pour la conduite de la personne qui en est le sujet, une série ayant du sens pour la conduite de la personne qui en est le sujet. C'est cela qu'elle appelle expérimentation. Le propre des enseignements artistiques, c'est bien d'expérimenter. Et elle définit l'expérimentation comme processus de subjectivation, au sens de devenir le sujet qu'on n'était pas encore, émerger comme un soi-même. Alors, la part de l'art. Dans le cadre de cette éducation individuante et démocratique, elle développe ce thème, celui de la part de l'art. Alors là, je trouve que c'est vraiment une idée absolument lumineuse. Ce qu'elle appelle la part de l'art, c'est la part du facteur personnel dans l'enseignement et dans l'éducation. Et dit-elle qu'il devrait exister dans tous les enseignements. C'est là où je trouve que son idée est vraiment géniale. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Elle veut dire qu'en réalité, dans tous les enseignements, quelle que soit la matière, quelle que soit la discipline, il devrait y avoir, il y a cette part de l'art qui est constituée par le facteur personnel apporté par l'élève. En même temps qu'elle dit ça, on mesure que cette part de l'art, justement, ça c'est fort quand même, ça veut dire que cette part de l'art, elle appartient à tout le monde. Et là encore, elle fait bouger les frontières. Elle appartient à tout le monde. Elle appartient pas seulement aux professionnels de l'art, aux artistes. Elle appartient aux élèves. Elle appartient aux enseignants. Elle appartient aux citoyens, cette part de l'art, qui consiste à avoir un milieu de vie suffisamment aménagé, suffisamment organisé, suffisamment propice pour que chacun puisse apporter son facteur personnel, la dimension personnelle. Un facteur qui n'existe pas dans la plupart des lieux d'enseignement. Encore faut-il en avoir conscience. Le facteur personnel est l'ingrédient essentiel d'un projet d'enseignement qui soit véritablement démocratique, la condition de toute formation. L'enseignement de l'art est le milieu grâce auquel l'individualité d'un jeune peut se développer. Ce facteur personnel. Mais vous voyez, ça me fait quand même penser au petit film qu'on a regardé hier dans l'atelier sur la crise et la gestion de crise, parce que finalement, entre cette prof de théâtre, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus, oui, qui est sûrement pas anodin, cette comédienne, pardon. Et oui, parce que justement, j'étais très gênée par sa violence. Je me suis fait rappeler à l'ordre, pardon, hein, parce que j'avais pas le droit de juger, mais cette violence, terrible, terrible quand même. Hein, je trouve ça complètement... Enfin, bizarre même, bref. Et en fait, j'ai rationalisé après coup en me disant, bon, bah, c'est une comédienne, elle joue au prof. Et elle, finalement, elle fait ce que le prof ne faisait pas. Mais je pense à cet élève-là qui revendiquait, qui disait, moi, je fais de la comédie musicale. Alors, elle lui dit d'une manière violente, mais elle lui dit, apporte quelque chose de ce que tu es toi et de ce que tu fais toi. Apporte ta part au collectif. C'est ça qu'elle lui dit. Et ça marche, parce que finalement, ça marche toujours. Je ne vois pas comment ça peut ne pas marcher. Maintenant, sur ce qu'on a vu hier, et du point de vue du produit fini, il faudrait savoir ce qu'était le projet au départ pour pouvoir apprécier le produit final, sinon on ne peut pas très bien se rendre compte. Mais finalement, on voit bien comment ça fonctionne. On l'a vu hier après-midi dans ce court extrait-là. « Apporter sa part ». Alors, apporter sa part. Du coup, ça me conduit à quelque chose que je voulais évoquer avec vous. C'est la manière qu'on a en France. Je ne sais pas si c'est pareil à l'étranger, mais à mon avis, ça doit être particulièrement marqué en France, vu notre conception de l'école et des enseignements, d'opposer éducation artistique et culturelle et enseignement artistique. En réalité, je pense que les deux sont cet espace critique où s'affirme l'ambition émancipatrice d'une éducation dont les deux principes sont l'individuation et l'expérimentation. Je pense qu'un certain discours qui peut être porté du côté de l'éducation artistique et culturelle quand elle est portée par des professionnels de l'art et de la culture, un discours assez anti-enseignement, anti-scolaire, eh bien c'est un discours qui prend acte de l'échec relatif. De l'échec des enseignements artistiques dans l'école, mais qui ne mesure peut-être pas suffisamment que les fondements des deux démarches sont communs, en réalité. Et en réalité, ce que je pense, c'est que ni d'un côté ni de l'autre, les choses ne sont simples, puisque bien évidemment, côté enseignement, on assiste à un phénomène, alors je l'ai appelé un phénomène de réduction scolaire. La réduction à tous les niveaux. Réduction en termes d'heures, réduction en termes de forme, en termes de format. Hein, quand un prof a 18 heures avec 18 classes, enfin, vous imaginez quand même ce que c'est. Puis en plus maintenant, ils sont la plupart du temps sur 2 ou 3 établissements, les enseignants de collège. Hein. Donc un phénomène de réduction scolaire qui tient aussi aux objectifs de l'école. Mais je pense que les fondements et les finalités restent intacts. Mais l'espace est constamment à négocier, constamment enfin. Et je n'évoque pas le principal peut-être qui est la hiérarchie des disciplines scolaires. Mais dans le cadre scolaire qui est le nôtre, tel que je l'ai décrit précédemment, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de hiérarchie ? Je pense même en écoutant Samia et cette histoire de finalité, donc réduire l'échec scolaire, finalement je me dis que on peut aussi avoir inconsciemment pour objectif de ramener toute une frange d'élèves, de les ramener dans une capacité à se situer dans la hiérarchie scolaire. Hein ? Donc, qu'est-ce que c'est que cet objectif ? Enfin, c'est pas l'objectif d'une éducation artistique et culturelle. C'est un autre objectif. C'est l'objectif de l'école. L'école garde ses objectifs. Et l'école en France est très hiérarchisée. Donc, cette hiérarchisation des disciplines. Mais comment voulez-vous qu'on fasse toute sa place aux enseignements, toute leur place aux enseignements et à l'éducation artistique avec ce modèle rationnel qui reste le nôtre, ce modèle de citoyenneté, c'est-à-dire d'inscription de l'individu dans un collectif, dans le collectif qui est le nôtre. Tous les discours, toutes les politiques éducatives promouvant l'éducation artistique et culturelle, je ne dis pas qu'elles resteront lettres mortes, mais enfin, seront empêchées dans leur réalisation tant que ce modèle subsistera en France. Donc l'espace, en tout cas, au collège, est constamment à négocier entre laisser faire et conformer, laisser libre cours à une subjectivité et enfermer dans des règles. Côté éducation artistique et culturelle, 2 écueils, une conception réductrice de la démocratie et de la démocratisation, une institutionnalisation de l'art et de la culture peu propice au processus d'individuation. Je pense que côté art et culture, on n'est pas non plus, enfin, on peut pas non plus faire l'économie de cette réflexion sur les conditions d'une individuation. Donc du coup, ça nous renvoie un peu à ce que suggérait Christian Lallier hier. Il me semble qu'à un moment, il a parlé des institutions, interroger les effets institutionnels. Mais des deux côtés, il faut interroger les effets institutionnels. Sinon, s'agissant des valeurs en circulation et de ce qu'on veut produire, transmettre, s'agissant des effets, on en restera à la surface. Au discours. Retour aux valeurs, et j'en ai presque terminé. Donc au-delà des évidences ou des discours convenus, les enseignements et l'éducation artistique ne sont pas seulement les espaces où les valeurs personnelles et collectives circulent, ce sont les seuls espaces dans les institutions scolaires, artistiques ou culturelles où est constamment interrogée la valeur de l'art. La valeur de l'art, non au sens social, marchand ou quantitatif. Je ne vous fais pas un dessin. La valeur de l'art n'est pas cumulative. Mais au sens où seul il fournit les conditions d'une éducation individuante permettant la croissance de soi. La croissance de soi, c'est un concept douéien qui nous vient de John Dewey. Je ne sais pas comment le dire. La croissance de soi. J'aime beaucoup cette métaphore parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur de l'individu. Donc les valeurs, la question des valeurs en éducation artistique et culturelle nous renvoie à la valeur de l'art. Après ce détour par les conditions d'une éducation individuante et donc démocratique, permettant de construire sa liberté. Donc elle cite à un moment ce propos de Florence Chevalier, professeure dans une école d'art, contribuer à ce que les individus soient plus conscients, plus éveillés, plus maîtres de leur destin, qu'ils parviennent à échapper à l'emprise des dogmes communs. Donc avec ce que ça engage de responsabilité et partage, expérience de l'autonomie, une expérience qui renvoie constamment à soi, constamment à soi, mais en même temps une expérience qui peut être douloureuse, en ce qu'elle suppose de prise de risque, de mise en danger, d'exposition aussi devant les autres. Et finalement, il n'y a pas que les élèves qui sont inégaux face à cela, nous sommes tous inégaux, face à cette capacité à se mettre en danger, s'exposer. Mais il y a quelque chose de particulier dans les enseignements artistiques et dans l'éducation artistique et culturelle. C'est que toujours, quels que soient les dispositifs et les situations, il y a toujours ce rapport de l'individu au collectif, que ce soit même le collectif classe, parce que dans une classe, et puisqu'on voit par ailleurs de mise en place des dispositifs, ne serait-ce qu'avec des artistes en résidence, on est toujours dans l'école et dans la classe. Les espaces sont les mêmes. Eh bien, il s'agit toujours de partir de soi, de produire quelque chose à partir de ses propres interrogations, de ses propres questionnements, de ses hypothèses. Mais en fait, il s'agit de le produire pour un collectif, pour les autres. Et même un artiste produit pour les autres, bien évidemment, pour être vu, pour être lu, pour être écouté. C'est toujours ce qui se passe. Et ça, c'est quand même une situation unique à l'école. Ce sont les seuls domaines où il y a ce rapport intime à soi-même et en même temps qui est pour les autres. D'où une place pour autrui, bien sûr. Une place pour autrui. Et j'insiste sur cette notion de participation, j'en ai parlé précédemment, lorsque j'évoquais la part personnelle, la place de l'art, la part personnelle et donc la possibilité d'apporter quelque chose. Donc c'est ce double sens de participation, on l'entend toujours comme prendre part, participer. Participation démocratique, c'est toujours être capable de prendre part à quelque chose. Prendre la parole dans un collectif, par exemple. Oser prendre la parole dans un collectif. Je ne dis pas que ce n'est pas un objectif. Mais participer, c'est aussi, et peut-être en même temps toujours, apporter sa part. C'est ce qui se passe dans les enseignements et dans l'éducation artistique. Apporter sa part. Ah, voilà, c'était le mot de la fin. Merci.